Nous avions commencé, je crois bien, la topique de l'être en acte et l'être en puissance, c'est-à-dire d'essayer de comprendre ce second grand moment de la recherche de la philosophie première de ce qui est du point de vue de l'être. Sous le point de vue de l'interrogation, qu'est-ce que c'est que la perfection de l'être? Qu'est-ce qui achève l'être? Qu'est-ce qui est le terme de ce qui est en tant qu'être? Je vous avais dit l'importance de cette question, surtout face à Platon, il ne faut pas l'oublier, dans une topique, et que ce problème se reposait aujourd'hui à peu près de la même manière. Vivre Dieu sans l'être. Et c'est toujours la même question, c'est ça qui est intéressant. C'est intéressant de saisir combien l'esprit humain a de la peine à saisir ce que c'est que la finalité. Je crois que c'est là où on voit bien. Nous sommes en connaturalité avec les déterminations de l'être, nous sommes en connaturalité avec le point de vue de la forme, mais nous avons une peine énorme à découvrir ce que représente ce dépassement de la détermination, ce quelque chose qui est au-delà de la détermination. Et au fond, c'est cela qu'on doit essayer de découvrir. Découvrir ce qui est de fait l'au-delà de l'au-delà, l'au-delà de toutes les déterminations, pas seulement l'au-delà des catégories, hein. Parce que l'ousia nous fait déjà dépasser les catégories. Alors il y a un double dépassement, c'est ça qui est intéressant à voir, un double dépassement. Il y a le dépassement de l'ousia par rapport aux catégories, c'est déjà pas commun. La plupart des esprits demeurent au niveau des catégories. Ça, c'est comme naturel. Nous demeurons dans les ornières. C'est tellement plus facile. Hein. Les vieux chevaux qui retournent à l'écurie sans penser. Alors, ils retournent tout simplement dans les ornières. Alors, je comprends, c'est forcé que c'est comme ça. J'avoue de la peine à émerger, vous voyez, de la raison. Nous sommes des êtres rationnels. Et l'être rationnel, c'est celui qui demeure dans les catégories. Ça, rationnel, c'est l'univoque. Et le rationnel, c'est celui qui demeure dans les catégories. Dépasser les catégories pour découvrir la source des déterminations qui est l'ousia, c'est le... Mais alors, arriver à dépasser encore d'une autre manière, pas de la même façon. D'une autre manière, dépasser la substance, en comprenant que la substance n'est pas adéquate à l'être, qu'il y a dans l'être autre chose que la substance, c'est pas comme ça. Alors, nous voyons bien, historiquement, que c'était le grand obstacle pour Platon. Platon est resté au niveau de la forme. L'être s'identifie à la forme. Platon, c'est une ousiologie. C'est justement l'inverse d'Aristote. Mais Platon, c'est vraiment une ousiologie. C'est la forme qui s'identifie à l'être. Et le bien est au-delà. Et l'un est au-delà. Et donc, il y a quelque chose de plus grand, de plus transcendant que l'être, c'est le bien et l'un. Donc, si je suis platonicien, je dois dire Dieu sans l'être. Dieu au-delà de l'être. Si je suis platonicien. Mais l'inconvénient, c'est que l'écriture n'est pas platonicienne. L'écriture parle à l'homme qui est dans la vérité, et qui cherche la vérité. Et Platon, il se place dans un point de vue esthétique. Et c'est vrai. Chez Platon, il y a de l'esthétisme, un plan très extraordinaire, merveilleux, il faut aimer Platon, mais ce n'est pas la vérité. Aristote va essayer donc de dépasser Platon. Je vous avais dit qu'il fallait bien comprendre le livre Theta de la métaphysique, qui est le grand livre où nous voyons ce dépassement. Que je crois là important à saisir. Je suis en train de lire un petit mémoire, on me donne le petit résumé qui est pas mal fait de la philosophie de l'être en acte et en puissance. Alors, je vous le lis tout simplement. Le point de départ de la découverte de l'acte, c'est donc dans le livre Theta, au chapitre 5. Nous venons de traiter de la puissance dite selon le mouvement, parlons de l'acte, de ce qu'est l'acte et quel il est. Autrement dit, Aristote se pose la question du qui est-il de l'énergéant. Ça se prononce comme ça se lit. Le qui est-il aussi, comme ça. Le qui, le gardien du qui. Le qui est-il de l'énergie. Qu'est-ce que c'est que l'art. Pour moi, tenir ce mot, l'énergéant. Et alors, Aristote dit le qui est-il et le poion qui. Le poionti. Ça, c'est beaucoup plus difficile à traduire. Le poionti, c'est en quelque sorte quel il est. C'est curieux, il y a les deux choses qui vont ensemble. C'est intéressant. Poionti, donc quel il est. C'est l'aspect qualitatif. Le poionti, c'est l'aspect qualitatif. Qu'est-ce que c'est et quelle est sa qualité. Aristote dit clairement donc, que les cinq premiers chapitres du Theta sont au niveau de la dynamis. Donc sont au niveau de la puissance. De la puissance au niveau du mouvement. Nous venons de traiter de la puissance dite selon le mouvement. Parlons de l'acte, de ce qu'est l'acte et quel il est. Donc on change de niveau. Après avoir regardé le niveau du mouvement, c'est intéressant de voir ça, parce que c'est tout à fait une autre démarche que pour la découverte de l'ousia. La démarche pour la découverte de l'art se fait par le mouvement. Et par le mouvement, donc par le dynamisme. Le mouvement nous introduit à l'acte. Le mouvement est une réalité qui ne peut pas se ramener à l'ousia. Réfléchissez sur ce que c'est que le mouvement, ça ne peut pas se ramener à l'ousia. Puisque vous êtes toujours vous-même, quand vous dormez, vous n'avez pas de mouvement, du moins normalement, sauf que c'est des cauchemars, autrement vous restez vous-même, et puis quand vous êtes éveillé, vous mettez à faire quelque chose. Et vous voyez, c'est la même personne. Donc l'ousia est la même. Il y a quelque chose qui s'ajoute. C'est pour ça que le père de finance dit que le mouvement, l'action, c'est du surêtre. Vous comprenez très bien, c'est toujours la même chose. L'être, c'est la substance, et il y a quelque chose qui s'ajoute, l'activité, l'action. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que pour Aristote, le point de départ de cette recherche, il le souligne tout de suite, l'acte est le fait d'exister pour une réalité. L'acte est le fait d'exister pour une réalité. Le fait d'exister est toujours, d'une certaine manière, lié à une manière d'exister, à un mode d'être. Très grosse différence, vous voyez, avec le point de vue de l'ousia. L'ousia peut se séparer des accidents, alors que l'acte, ma manière d'exister, mon être, le fait d'exister pour moi, c'est d'exister en tant qu'homme. C'est l'être à l'homme. Je ne connais pas l'être de l'ange. C'est bien dommage, hein. Tellement plus heureux, on serait délivré de la communauté. L'être de l'ange, vous voyez, l'être à l'ange, c'est l'être de l'homme que je connais. Donc mon être est tout de suite lié, mon acte d'être, mon existence est tout de suite lié à telle manière d'exister, telle, le poion, telle manière d'exister. Vous pourrez presque dire telle, vous voyez. Telle manière d'exister, c'est cette manière d'être telle. J'existe comme homme. Et je n'ai pas d'autre expérience de l'exister que celle-là. Donc mon être est lié, mon acte est lié à ma manière d'exister. Aristote dit ceci, mais il n'est pas à la manière de ce que nous disons être en puissance. Par exemple, nous disons qu'Hermès est en puissance dans le bois, la moitié dans le tout, parce qu'elle pourrait bien en être retranchée. Nous disons aussi que celui qui possède la science et ne contemple pas, bien qu'il en soit capable, est en puissance, l'autre en acte. J'existe en acte, mais existant en acte, j'existe de telle manière. Donc, ce qui est important de voir, que c'est tout de suite, hein, Aristote saisit tout de suite que ma grande expérience de l'acte, c'est mon exister. C'est vrai, c'est ma grande expérience de l'acte. J'existe, je suis. Et ceci dépasse le point de vue de la substance. Quelque chose de nouveau. Et cet exister est lié tout de suite à une manière d'exister. Alors c'est à partir de là qu'Aristote va réfléchir sur ce que représente ce fait d'être en acte. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a, c'est-à-dire ce qu'il y a d'ultime en moi. Et c'est pour ça qu'il nous donne cette induction, il nous dit que c'est par un mode d'induction que nous devons saisir cela. Et cette induction, elle se présente de cette manière. Il nous dit que c'est une considération synoptique qui implique quelque chose d'analogique. Il faut rechercher par une considération synoptique ce qu'est l'analogue, le taux, l'analogon. Donc il faut, dans une considération synoptique inductive, nous devons chercher ce qu'est l'acte. Qu'est-ce que c'est? Et alors voici son point de départ. Je vous le rappelle, comme celui qui bâtit à l'égard de celui qui peut bâtir, celui qui est éveillé à l'égard de celui qui dort, celui qui voit à l'égard de celui qui a les yeux fermés, ce qui est séparé de la matière à l'égard de la matière, ce qui est élaboré à l'égard de ce qui ne l'est pas. Vous voyez, les de ses expériences, celui qui bâtit à l'égard de celui qui peut bâtir. C'est le terme pros, donc actif à celui qui peut bâtir. Celui qui est éveillé, c'est le point de vue de la vie. Celui qui voit, c'est encore le point de vue de la connaissance. Donc vous avez le facere, la vie, la connaissance, ce qui est séparé à l'égard de la matière, ce qui est séparé de la matière à l'égard de la matière. Alors là, c'est au niveau de la réalité physique et l'au-delà de la réalité physique, les substances séparées. Ce qui est élaboré à l'égard de ce qui ne l'est pas. Déterminons l'acte par l'une de ces parties de cette différence, le possible par l'autre. C'est très vite dit, hein? Quand vous regardez ces expériences, vous voyez qu'en effet, vous êtes en face de deux types particuliers d'exister. Vous voyez et vous êtes capable de voir. Vous êtes éveillé, c'est l'expérience ce matin, vous êtes éveillé, ceux qui sont levés à l'heure et ceux qui ne sont pas levés à l'heure, n'est-ce pas ? Alors, vous êtes éveillé et vous avez dormi avant. Et votre manière d'être éveillé, c'est proche. C'est relatif à. C'est évident. Vous sortez du sommeil. Pas très drôle. Mais vous sortez du sommeil. Vous mettez si bien. Vous sortez du sommeil pour être éveillé. Vous sortez de la capacité de voir et vous voyez. Vous sortez de la capacité de bâtir et vous bâtissez. Vous êtes séparé de la matière à l'égard de celui qui est enfoui dans la matière. On vous prend ces différentes expériences, hein, on pourrait les prendre beaucoup, parce que toute notre vie est faite de ça. Réfléchissez, toute votre vie est faite de ce passage, constamment. Vous êtes assis, vous levez, à l'égard de celui qui est assis. Vous êtes à genoux, puis vous vous asseyez. à l'égard de celui-ci. Deux états particuliers. Alors là, évidemment, c'est moins caractéristique, parce qu'on peut se demander quel est le plus parfait. Soit. Faut-il mieux être assis, faut-il mieux être à genoux? Ça dépend dans quelles circonstances. N'est-ce pas? Si vous mettiez à genoux pendant le cours, je dis, ah non, mettez-vous plutôt assis. N'est-ce pas? Mais si pendant l'oraison, vous êtes assis, à genoux, c'est très bien, c'est pas mal. N'est-ce pas? Je ne vous dirais pas, mettez-vous assis, non, c'est pas mal. Mais n'exagérez pas trop. Si vous êtes trop fatigué, ayez la simplicité de vous asseoir. Deux états différents. Or, il y a un ordre dans ces deux états. Il y en a un qui est ordonné à l'autre. Il y en a un qui provient de l'autre. Et ces deux états existent à des niveaux des diverses opérations, existent au niveau de la substance, existent au niveau de la perfection de la perfection. Donc, qu'est-ce qu'il y a de commun dans tous ces états? Ça ne peut être que l'être. C'est ça qui est intéressant. Ça ne peut être que l'être. Et donc, je peux, à partir de ces différents états, si j'y réfléchis, hein, et si j'ai l'interrogation, qu'est-ce qui est l'être en acte? Qu'est-ce que représente l'être dans son état de perfection? Au-delà de quoi je ne peux pas aller? Qu'est-ce qui est l'être dans cet état de perfection? Au-delà de quoi je ne peux pas aller? C'est l'être en acte. Eh bien, je retrouve l'être en acte dans ses différentes modalités, comparément à l'être possible, à l'être en puissance. Et c'est en réfléchissant sur ces différents états et en interrogeant, n'oubliez jamais, je n'induis que quand j'interroge. Si je n'interroge plus, je suis assis, spirituellement parlant, n'est-ce pas ? Et intellectuellement parlant. Et alors, si je suis assis, je trouve que c'est bien, j'attends pas. N'est-ce pas ? Tandis que si je suis éveillé, je n'attends pas que ça passe, parce que je vis. Et alors, à ce moment-là, je découvre qu'il y a un état qui est premier par rapport à l'autre. L'être en acte à l'être en puissance. C'est pas commun, hein, mais c'est très important de saisir ça. Je vous donne Aristote. Hein, puis après, nous essaierons de comprendre. Et c'est intéressant parce que c'est quand même un moment très important. Toutes choses ne sont dites en acte de même manière, mais seulement par analogie. Voilà ce qu'affirme Aristote également, de montrer que toutes ces diverses modalités sont toujours l'être en acte et l'être en puissance, mais il y a quelque chose de divers chaque fois. Être éveillé comparativement à celui qui dort, c'est l'analogue de celui qui voit et celui qui peut voir. C'est l'analogue de celui qui contemple et celui qui peut contempler. C'est l'analogue de celui qui est séparé de la matière à celui qui est englué dans la matière. C'est très curieux ces choses-là. C'est très beau, du reste. Voir ces diverses analogies, ces différents niveaux, et de voir que je retrouve tout le temps ces deux niveaux. Bon, une fois que cette induction se fait, alors c'est toujours le propre de l'induction, c'est que, logiquement, l'induction, c'est un moment, un instantané. C'est un instantané de l'intelligence, l'induction. Alors, comme c'est un instantané de l'intelligence, on pige ou on ne pige pas. Hein, c'est très simple, c'est un instantané, c'est un flash. Ça ne dure pas longtemps. C'est... Ah, tiens, oui, j'ai saisi quelque chose. Puis dès que je veux réfléchir, je ne vois plus rien. C'est exactement ça, l'induction. On saisit quelque chose. Il y a quelque chose. J'arrive difficilement. Surtout cette induction-là, parce que c'est l'induction, c'est le sommet de toute la philosophie. Alors, comprenez que ça met du temps. On est métaphysicien à 45 ans pour Aristote. Hein, si on a commencé à 18 ans, n'est-ce pas ? Alors, c'est évident. Si on a commencé à 18 ans, on est métaphysicien à 45 ans. Donc, l'induction de l'être, et de l'être en acte et de l'être en puissance, émerge à ce moment-là. On dit, tiens, c'est bien, on fait bien des courses en montagne pour voir le lever du soleil. Hein. On fait des courses en montagne pour voir le lever du soleil dans les altitudes. Alors, si on comprend qu'il y a là quelque chose de beau et de grand, moi, je veux voir le lever du soleil. Dans les altitudes, essayer de comprendre cette distinction de l'être en acte et de l'être en puissance. Et c'est vrai, le lever du soleil, c'est l'être en acte qui émerge. Cette espèce de nuage très difficile, l'être en puissance. L'être en puissance, tout est en puissance. Tout d'un coup, on voit une lumière. Tiens, ça met du temps, une petite lumière, c'est déjà quelque chose de sentir qu'il y a quelque chose derrière. Hein. L'intelligence doit être comme une intelligence qui interroge, comme un chien de chasse en face du gibier. Il ne le voit pas, mais il est en arrêt parce qu'il sait que derrière le fourré, il y a du gibier. Eh bien, quand l'intelligence interroge, elle est comme cela. Et une intelligence qui interroge est une intelligence en état d'alerte. C'est-à-dire qu'elle est attentive, il y a quelque chose là. Alors, je vais essayer de le saisir. Et alors, on donne exprès ces différentes expériences pour comprendre qu'il y en a quelque chose, qu'il faut découvrir. Il faut découvrir ce quelque chose, la distinction de l'être en acte et de l'être en puissance. Une fois que j'ai fait cette distinction, je réfléchis et je dis que l'être en acte est antérieur à l'être en puissance. L'être en acte est antérieur à l'être en puissance selon le logos, donc selon l'intelligibilité. Là, je crois qu'on peut dire selon le logos, c'est-à-dire selon l'intelligibilité. L'être en acte est plus intelligible que l'être en puissance, et je ne connais l'être en puissance qu'en fonction de l'être en acte. Je ne sais ce que c'est dormir que quand je suis éveillé. Oui, c'est pour ça que la béatitude peut faire dormir. Parce que quand vous dormez, vous ne savez même pas où vous dormez, pauvre type que vous êtes. Hein. Vous ne savez même pas où vous dormez. Tandis que vous savez que vous dormez quand vous êtes éveillé. C'est vrai ça. Quand vous dormez, vous dormez. Alors, l'être en acte est premier selon le logos. Il est premier selon le temps. En certains cas seulement, selon l'espèce et non selon le nombre. Il est premier selon l'ousia. Donc, triple priorité de l'être en acte. Selon le logos, selon le temps, selon l'ousia. Mais il faut tout de suite noter que selon le temps, attention, quand il s'agit de l'individu, dans son devenir. Dans son devenir, l'homme commence par être un tout petit enfant. Quand il est dans le berceau, il est un être en puissance. Je peux le dire maintenant, j'en suis sorti. Mais l'enfant qui est dans le berceau, il ne peut pas dire qu'il est en puissance. Vous n'avez jamais entendu un enfant qui disait « Je suis puissance. Un jour, je serai un grand homme. » Non, vous ne pouvez pas. Quand vous êtes un grand homme et que vous avez sorti du berceau, vous pouvez dire « L'enfant qui est dans le berceau est en puissance. » C'est vrai que nous avons d'abord été en puissance avant d'avoir été en acte. L'individu, pas l'espèce. Ça, c'est un très grave problème pour la question de l'évolution. Cette petite distinction que fait Aristote. Donc, l'antériorité de l'acte sur la puissance selon le temps. L'acte est antérieur à la puissance selon le temps au niveau de l'espèce, mais pas au niveau de l'individu. Au niveau de l'individu, c'est l'inverse. La puissance est antérieure. Et ça, c'est vrai. Nous avons tous reconnu cela. Et normalement, nous faisons cette expérience philosophique tous les jours. C'est que quand vous commencez à faire des cours de philosophie, de subir des cours de métaphysique, vous n'y comprenez rien du tout. Vous êtes en puissance. Alors on vous dit, espérez, c'est pour ça qu'on met devant vous des êtres en acte, qui vous disent, un jour tu comprendras, mais pas tout de suite, à 45 ans, n'est-ce pas, tu comprendras. Mais entre deux, il faut travailler, il faut réfléchir, il faut découvrir ça progressivement, ça met du temps. Mais c'est vrai, l'individu aspire à être en acte, mais commence par être en puissance. Donc, petite distinction très importante, on peut dire que cette distinction de l'être en acte et d'être en puissance est présente dans toute la philosophie d'Aristote. C'est la grande découverte d'Aristote. Alors, je vous avais dit, il faut bien distinguer l'entelekeion. Je ne reviens pas là-dessus. Immédiatement après Aristote, cette distinction de l'être en acte et de l'être en puissance disparaît. Ça, c'est les chutes verticales qui sont très connues dans l'histoire de la pensée. Je crois qu'en art, c'est comme ça aussi. Quand il y a un très grand génie, il y a une chute verticale. Alors, soyez un génie, regardez la chute verticale à côté de vous. Non, c'est toujours intéressant à voir. Non, alors, c'est vrai qu'après Aristote, ça n'a pas été maintenu. Les stoïciens n'ont pas maintenu. Les stoïciens n'ont pas maintenu les deux. Curieux. Et Plotin, puisqu'au fond, après les stoïciens, c'est Plotin. Plotin reprend la philosophie de l'énergeia. Et ce serait très intéressant de bien voir dans Plotin ce que représente l'énergeia. Pour ceux qui s'intéressent à toute la théologie orthodoxe, c'est de regarder ce que représente chez Plotin le point de vue de l'énergeia, puisque les énergies de Dieu prennent une place très importante dans la théologie orthodoxe à partir du XVIe et XVIIe siècle. Et tout ça, c'est du Plotin. Alors, c'est intéressant de voir ça, parce que c'est pas du tout... C'est une théologie qui s'appuie sur Plotin. C'est intéressant de voir que chez Plotin, l'énergeia n'est plus du tout quelque chose d'ultime. Autrement dit, Plotin revient à Platon. Et pour Plotin, qu'est-ce qu'il y a d'ultime? C'est le point de vue du bien et le point de vue de l'un. Et qu'est-ce qui unit le bien et l'un? C'est la dynamis qui fait le lien entre les deux. Et qu'est-ce qui provient du bien et de l'un, qui représente la première hypostase? La première hypostase, donc ce qu'il y a de tout à fait premier, à partir du bien et de l'un, il faut comprendre la première émanation du nous. Et c'est là où il faut voir la seconde hypostase, qui est l'intelligence. Et la troisième hypostase, c'est l'image. Il faut bien connaître la petite trinité plotinienne. Alors, c'est intéressant de voir que qu'est-ce qui relie le nous, c'est l'énergeia. L'énergeia, c'est l'émanation elle-même. C'est l'émanation elle-même. Le bien est source de l'intelligence. Source éternelle, c'est pas une création, c'est une émanation éternelle. Et c'est l'énergeia, donc l'acte, qui unit le bien et le nous. Il y a une espèce de vraiment, on peut dire une émanation qui se fait du bien à l'égard du nous. Et le nous est considéré comme image, eikon, icon, image du bien. Alors il y a les deux expressions, c'est ça qui est très intéressant à voir, c'est que qu'est-ce qui relie le bien et le nous, c'est l'énergeia dont au terme il y a l'image. Vous voyez donc que l'énergeia n'est plus le sommet, mais c'est le lien. C'est au fond saisi même d'une émanation. Si le bien, je vous lis ce passage dans Plotin, si le bien, celui qui est dans l'être, c'est l'acte d'être, à savoir l'acte naturel qui porte vers l'un, si c'est là son bien qui fait qu'il a la forme du bien, ce bien sera l'acte dirigé vers le bien, c'est-à-dire sa vie, c'est-à-dire son mouvement. Donc, ce qui lui permet d'être en liaison, vous voyez, l'énergeia, et aussi bien ce qui provient et ce qui permet le retour. On est comme ça, si vous voulez. Les deux flèches. L'énergeia, c'est ce qui va unir le nous au bien.
ce qui le rend parfait par son activité même, et ce qui provient de là. Donc ce qui provient de bien et ce qui retourne vers le bien. Puisque ces processions et retours sont simultanés. Processions et retours sont simultanés. Et tous les deux sont l'énergéia. Donc l'énergéia est saisie dans l'exercice même de la procession et du retour. Je crois que c'est ça qui est propre de l'énergéia. C'est très difficile à saisir dans Plotin. Je crois que c'est ça qui est encore exprime le mieux. C'est dans la sixième énéade. Donc je relis. Si le bien, celui qui est dans l'être, c'est l'acte de l'être, à savoir l'acte naturel qui le porte vers l'un, si c'est là son bien, qui fait qu'il a la forme du bien, ce bien sera l'acte dirigé vers le bien, c'est-à-dire sa vie, c'est-à-dire son mouvement. Bien, elle a son existence. Vous voyez comme c'est difficile à saisir. Ce sont les expressions mêmes de Plotin. Je crois que c'est toujours un peu, c'est très difficile à saisir du Plotin. C'est pour ça que la pensée orthodoxe est souvent si difficile à saisir. Parce que c'est une pensée vécue. Plotin, c'est du vécu. C'est du vécu et qui, d'une certaine manière, ne s'exprime plus. C'est la dépendance de l'intelligence dans son lien avec son bien. Et c'est la dépendance de l'intelligence à l'égard de sa source. Parlant de la pensée, Plotin dira qu'elle naît en s'ajoutant en quelque sorte à l'être dont elle est l'acte et dont elle complète la puissance. Mais sans rien engendrer elle-même, elle n'est que l'achèvement de l'être dont elle est la pensée. Voilà la définition de la pensée. La pensée étant puissance d'engendrer, engendre en elle-même son acte sélousia. Très très difficile à saisir, c'est l'exercice même, je crois que c'est ça qu'on peut dire, c'est l'exercice même du nous dans sa dépendance vis-à-vis de l'un, vis-à-vis du bien. Donc comprenez qu'au moins chez Plotin, il y a un gros problème pour saisir ce que représente cette énergéia qui est saisie du côté de l'exercice. Vous avez en Suisse, après le platonisme, le néoplatonisme, l'utilisation de l'acte, de la distinction de l'absence à partir des théologiens. Alors là, il y a un gros, gros problème, très intéressant. La manière dont Avicenne s'est servi de la distinction de l'être en acte et de l'être en puissance. Avicenne, vous savez bien, c'est le théologien arabe, hein, jamais l'oublier. Mais c'est un théologien, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a la foi dans le Créateur. Avicenne va se servir de la distinction de l'être en acte et de la puissance, le premier qui va s'en servir pour essayer d'expliquer théologiquement le problème de la création. Et c'est ça l'intérêt, c'est l'intérêt d'Avicenne. C'est qu'il est quand même le premier. Il est le premier qui fait le passage de foi, de sa foi musulmane, à la métaphysique d'Aristote. Une métaphysique d'Aristote qui n'est pas très pure, qui est souvent très liée au néoplatonisme, c'est pour ça que dans Avicenne, il y a pas mal de néoplatonisme. Avicenne n'est pas une pensée tout à fait pure, au point de vue aristotélisme, c'est bien évident, elle est très liée au néoplatonisme. Mais pour Avicenne, et c'est ça qui me semble intéressant à souligner, c'est que la distinction de l'être en acte et l'être en puissance est vue du point de vue de ce que représentent des états de l'être, et non pas du tout de la fin. C'est des états. Je ne crois pas qu'Avicenne saisisse plus. Il faut retrouver dans saint Thomas le problème de l'être en acte et d'être en puissance, et comment saint Thomas utilise l'être en acte et en puissance. Alors là, attendez, ça doit paraître de Henri Brincard sur de l'utilisation de la distinction de l'être en acte et en puissance. Et alors à ce moment-là, vous verrez la manière dont saint Thomas a utilisé cette distinction de l'être en acte et l'être en puissance. C'est une thèse extrêmement difficile à faire, mais je crois très importante. Parce que si la distinction de l'être en acte et l'être en puissance est le sommet de la philosophie d'Aristote, c'est très intéressant de voir comment saint Thomas utilise cette distinction en théologien. Pour saisir que saint Thomas est avant tout un théologien et non pas un philosophe. Je crois que celui qui lira cette thèse comprendra que saint Thomas est avant tout un théologien et non pas un philosophe. Et donc il utilise cette distinction de l'être en acte et de l'être en puissance, il l'utilise comme un théologien utilise la métaphysique. Pourquoi quelquefois saint Thomas peut agacer un philosophe? C'est parce qu'il est théologien. Et que le théologien agace toujours le philosophe. Quand on est les deux, on le sait. Et on doit alors comprendre que le théologien agace le philosophe parce que le théologien ne cherche plus les principes. Le théologien cherche le quomodo. Le quomodo, le pos, le comment. Parce que le théologien ne peut jamais savoir ce qu'est Dieu. Le tiesti de Dieu. Ce qui intéresse le philosophe, c'est le tiesti. Qu'est-ce que c'est? Et d'aller le plus loin possible. Et quand il ne peut pas atteindre parfaitement le tiesti, il regarde le poionti. Le théologien, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche comment. Et c'est pour ça que le positivisme est né de la laïcisation de la théologie. Le théologien ne cherche plus le quoi. Il ne peut pas le saisir. Il cherche le comment. Alors pour un philosophe, c'est très humiliant d'être théologien. Alors s'il est croyant, ça va très bien, parce qu'il sait que la philosophie doit être au service de la foi. Mais en tant qu'intelligence, hein, en tant qu'intellectuel, la théologie ne donne jamais à l'intelligence humaine la satisfaction que donne la philosophie. Ça c'est évident. Parce que la théologie, c'est justement la dépendance à l'égard de la foi, une recherche par rapport à la foi, qui fait qu'on ne peut pas savoir ce qu'est Dieu. Dieu sans le tiesti, vous voyez, ça serait très très bien. C'est pas sans l'être, mais sans le tiesti. Alors là, tout à fait d'accord, Dieu sans le tiesti. Alors, Dieu avec le comment. Comment Dieu existe-t-il? Ou plus exactement, comment n'existe-t-il pas, comme dit saint Thomas. Le quomodo non sit. Comment n'existe-t-il pas? C'est ça qu'on doit regarder en premier lieu. Donc, le théologien, lui, reste dans le comment. Alors, vous comprenez, j'espère, hein, vous saisissez un tout petit peu le problème, que lorsque on est en face du problème de l'art et de la puissance, on est au moment le plus aiguisé de l'intelligence humaine. On aiguise le couteau, c'est bien. Bien pointu. Pour saisir exactement ce que c'est que l'être en puissance et l'être en acte. Et je saisis cet être en acte. Mon intelligence ne peut pas aller plus loin. Mais saisis l'être en acte. Et le théologien s'en sert. Le théologien s'en sert pour le quomodo, le comment. Alors, vous voyez, ça tombe hein, dans le comment. Alors, toute la façon si aiguisée du philosophe, et ça on le voit par rapport à l'acte de la puissance, et c'est ça que c'est intéressant de faire une thèse là-dessus, c'est pas commode du tout, mais c'est très intéressant, parce que ça nous montre justement ce passage d'une intelligence aiguisée le plus loin possible, qui accepte, en croyant, de chercher le comment de Dieu. C'est très beau, du reste, ça. Parce que ça fait comprendre comment l'intelligence métaphysique peut s'humilier en face de la foi. Et qu'elle doit s'humilier en face de la foi. Et qu'elle peut seulement s'humilier en face de la foi. En face de tout le reste, elle n'a pas le droit de s'humilier. Le métaphysicien n'a pas le droit de courber la tête en face de la science, en face des mathématiques, en face de tout ça. Il n'a pas le droit. Il doit dire, je touche là quelque chose que vous ne touchez pas. Mais en face du croyant, ah oui. Parce que c'est Dieu qui révèle sa lumière. Ah, vous voyez là le contraste, vous voyez, la lumière de Dieu qui nous est donnée à la foi, qui ne nous donne aucun nouveau concept, aucun nouveau principe, et qui nous permet de utiliser, je dis bien utiliser, la métaphysique de l'acte de la puissance. Et en l'utilisant, je suis obligé de dégringoler dans le comment. C'est une chute verticale. Alors c'est ça qui est intéressant à regarder dans saint Thomas, vous voyez, voir comment de fait saint Thomas a utilisé la métaphysique de l'acte de la puissance. Je crois que c'est cela qui caractérise la théologie scientifique de saint Thomas. Il est le seul à avoir fait ça. J'en connais personne d'autre. Il est le seul à avoir fait ça dans la tradition de l'Église. Et c'est là où on saisit, je dirais, l'intelligence de saint Thomas d'avoir fait ça. Évidemment, c'est pas commode de le comprendre, hein. Mais c'est vrai qu'il est le seul. Et on le voit parfaitement dans son désir de montrer comment l'intelligence humaine peut atteindre l'existé de Dieu. Si saint Thomas n'avait pas atteint la distinction de l'être en acte et en puissance au niveau métaphysique, saint Thomas n'aurait pas pu nous donner les voies d'accès vis-à-vis de Dieu. Parce que là, il sert de toute la métaphysique de l'être en acte et en puissance pour nous montrer comment l'intelligence humaine peut atteindre Dieu. Mais c'est important de saisir toujours, vous savez bien, c'est ce que Bergson dit, que quand on veut connaître un philosophe ou un théologien, il faut toujours se mettre là où il a été le plus loin. Son intuition. Pour Bergson, c'est ça, c'est son intuition. Dans le langage de Bergson. On ne connaît un philosophe que quand on connaît son intuition profonde. Tant qu'on n'a pas atteint son intuition profonde, on ne le connaît pas. Donc c'est important de saisir qu'est-ce qu'il y a de tout à fait caractéristique à saint Thomas. C'est d'avoir utilisé la métaphysique de l'être en acte et de puissance. C'est ça, je crois, qui caractérise la pensée de saint Thomas. Et qui nous montre bien comment saint Thomas dissipe au plan philosophique d'Aristote, nous donne quelque chose de tout à fait nouveau. Puisqu'il est théologien et qu'Aristote reste un philosophe. Nous avons ensuite, après saint Thomas, la chute verticale exactement comme Aristote. Hein, et c'est vrai, il y a une chute verticale. Et la chute verticale s'explique très bien. Comment saint Thomas n'a pas eu, au fond, de successeur. Pourquoi ? Condamné par la Sorbonne. La condamnation de la Sorbonne a fait trembler le monde. Et c'est pour ça qu'Henri de Gand, qui vient juste après, qui est un grand bonhomme, Henri de Gand, il retourne à Avicenne. Parce qu'Avicenne, c'est le croyant. Alors qu'Aristote n'est pas le croyant. Et donc il retourne à Aristote. Il retourne à Avicenne. Et c'est pour ça qu'immédiatement après saint Thomas, Henri de Gand. Et après Henri de Gand, Don Scott. Et après Don Scott, notre cher. Alors, il ne faut jamais oublier ça. Hein. Parce que vous avez là la dégradation successive jusqu'à Occam. Et alors, Occam, la distinction de l'être en acte et en puissance, n'est plus rien du tout, puisque la métaphysique est identifiée à la logique. Alors, la distinction de l'être en puissance et de l'être en acte se joue au niveau de l'attribution. Le sujet qui est déterminé par les attributs. Quand vous regardez dans la philosophie contemporaine,